Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Au menu de ce magazine, l'Afro Presse, l'Afrique dans la presse allemande, et c'est avec Philippe Poyen. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir ?
Eh bien, parmi les thèmes africains traités par la presse allemande cette semaine, j'en ai retenu deux. D'abord, les événements récents qui se sont produits à Beni, dans l'est de la RDC, où beaucoup de civils ont été massacrés. L'autre thème concerne le Soudan du Sud, où des troupes gouvernementales sont accusées de violences graves et de viols, c'était début juillet, contre des civils, dont des membres d'organisations humanitaires internationales.
Merci Philippe, et on s'y dit à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et nous recevons ce soir Jean-Régis Ndouimana, blogueur burundais. Afrique 7 jours, c'est d'abord la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. L'actualité africaine de la semaine reste donc marquée par les massacres perpétrés le week-end dernier à Beni. C'est dans l'est de la RDC, des massacres attribués par les autorités à des rebelles ougandais musulmans, les ADF Nalu. Et pour le porte-parole du gouvernement congolais, ces rebelles ougandais sont des terroristes. Et Lambert Mende Omalanga, vous allez l'écouter, dit détenir des preuves.
Nous avons pu mettre la main sur un certain nombre de documents dans leur place forte de la jungle Mwalika, qui a été capturée et détruite la semaine dernière par la FRDC. Et dans ces documents, nous avons trouvé des preuves de collusion avec notamment les Chebabs somaliens et d'autres groupes terroristes à travers le monde. Et donc là, nous pouvons avec certitude parler d'une offensive djihadiste dont nous sommes victimes au même titre que d'autres pays africains comme le Nigeria, le Mali ou le Cameroun.
Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende Omalanga, ajoutant que les forces démocratiques alliées, armées de libération de l'Ouganda, ADF Nalu, sont opposées au président Yoweri Kaguta Museveni et écument l'est de la RDC depuis 1995. Ils sont accusés, ces ADF Nalu, d'être responsables d'une série de massacres ayant fait plus de 650 morts en 2014 dans le territoire de Beni, toujours dans l'est de la RDC. Nous restons en Afrique centrale pour reparler de l'actualité électorale au Gabon. Les Gabonais qui doivent élire leur nouveau président le 27 août prochain. Et à moins de deux semaines de cette présidentielle, Jean Ping, l'ex-président de la Commission de l'Union africaine et principal challenger d'Ali Bongo Ondimba, dit pourquoi le président sortant ne peut pas ou ne doit pas être réélu. Jean Ping.
On lui reproche tout. Sa gouvernance politique, sa gouvernance économique, sa gouvernance sociale, la gestion des affaires du pays. Par exemple, dans un pays où la population a peur de ses dirigeants, ça ne peut pas être une démocratie. Le pays est mal géré, il est au bord du chaos, il y a des grèves partout, il y a des révoltes partout.
Terminons cette revue de l'actualité africaine de la semaine par la Guinée. Là-bas, les militants de l'opposition ont manifesté mardi à Conakry, la capitale. Manifestation contre le régime d'Alpha Condé pour exprimer leur rejet des pratiques actuelles en matière de gouvernance politique, économique et sociale. Le porte-parole du gouvernement guinéen, Damantan Albert Camara, se dit prêt à dialoguer avec ses opposants.
Après la manifestation, les problèmes restent les mêmes, les questions restent posées et seule une rencontre autour d'une table de discussion permettra de lever les obstacles qui doivent nous emmener aux élections communales. Donc nous maintenons notre main tendue, nous avons fait la synthèse de tout ce que réclamait l'opposition et de tout ce que proposaient les partis concernés par ce processus.
Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est bien sûr sur les antennes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande émettant depuis nos studios de Bonn. Place maintenant à notre invité, l'invité de la rubrique Blogosphère, la tribune réservée aux blogueurs africains. Et c'est juste après cette petite pause.
Blogosphère.
Jean-Régis Ndouimana, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Le 21 juillet 2015, Pierre Nkurunziza se faisait donc réélire à l'issue d'un scrutin présidentiel contesté. Un mois plus tard, c'est-à-dire le 21 août de la même année, eh bien, il s'est fait investir pour un troisième mandat. Un an après, comment est-ce que se trouve le Burundi ?
Et après, oui, certainement le pouvoir peut se targuer d'avoir stabilisé le pays, puisqu'il n'y a plus de coups de feu quasi quotidien dans la capitale, comme il y a une année au mois d'août, septembre, avec l'insurrection armée qui était à l'intérieur même de la capitale. Mais aujourd'hui, un an après aussi, on peut déplorer la répression du gouvernement. Aujourd'hui, on parle d'au moins 348 exécutions extrajudiciaires, plus de 600 cas de torture. Ce sont des chiffres minimalistes. Il y a des observateurs indépendants qui targuent plus de 1000 personnes tuées. Et on ne parle même pas des emprisonnements arbitraires. On ne parle pas de tous les abus de droits de l'homme qui sont au pays. Alors, aujourd'hui, un an après, oui, le gouvernement continue sa politique de répression envers l'opposition radicale, mais aussi envers tous ceux qui sont opposés au pouvoir. Mais aussi, un an après, on voit toujours la peur ou l'inaction de la communauté à se mettre d'accord sur les mécanismes à mettre en place afin de cette répression du régime en place au Burundi.
Oui, mais pourtant, Jean-Régis Ndouimana, au cours d'une interview que nous a accordée l'ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies, Albert Shingiro, c'était jeudi soir, et bien Albert Shingiro nous disait clairement qu'un an après, le Burundi s'est hissé sur la scène internationale en témoin l'élection du pays à des postes importants au sein des instances internationales, sous-régionales comme l'EAC. Est-ce que vous partagez en partie cet avis?
J'allais aborder dans le même sens que monsieur l'ambassadeur, si on me disait qu'il y a un prix Nobel attribué au Burundi, au président Nkurunziza par exemple. Sinon, quel est le rapport entre les nominations qui sont réservées peut-être pour les Burundais dans ces genres de postes-là? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au pays. À l'heure où je vous parle, il y a des fouilles dans la capitale burundaise. Des arrestations habituelles peuvent arriver à tout des moments à l'autre. Et là, après, le peuple reste sous le joug d'un régime autoritaire, d'un régime qui tue sans merci.
Oui, mais un an après, Jean-Régis Ndouimana, l'opposition et la société civile n'ont pas réussi à faire infléchir les positions donc de Pierre Nkurunziza. Est-ce que ce n'est pas un échec? Est-ce que finalement le grand gagnant n'est pas Pierre Nkurunziza?
Et c'est ce coup-là, Nkurunziza est le grand gagnant, puisque Nkurunziza reste toujours au pouvoir, non pas parce qu'il a une certaine force. Oui, il a des instruments pour maintenir le pouvoir, entre autres l'armée, la police, le renseignement et tout. Mais aussi, il a aussi cette faiblesse de l'opposition, cette faiblesse, non pas, je ne dirais pas beaucoup cette civile, parce que cette civile est de son côté, fait son travail. Il y a des gens qui font un bon travail, par exemple la coalition des avocats des victimes, par exemple cette association, moi, tout le monde aujourd'hui peut apprécier, par exemple, le travail que mène l'association Focodé, dirigée par Pacifique Nénardjé, avec la campagne Ndondeza. Tout le monde aujourd'hui est d'accord avec ce qui est fort, le minimum que peuvent faire les journalistes et les blogueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui. Mais du côté de l'opposition, ça veut dire du côté de l'opposition, les partis politiques de l'opposition, la coalition Sénared, mais aussi et surtout ces mouvements armés, il y a encore des difficultés et qui donnent des forces à l'autre camp, c'est-à-dire le camp de Nkurunziza.
Le pouvoir demande à l'opposition et à la société civile de se préparer pour les échéances de 2020. Est-ce n'est pas un signe clair hein, que cette affaire du troisième mandat est désormais clos?
Ah oui, c'est certainement. Pour le gouvernement, la question du troisième mandat, c'est non négociable. Il faudra attendre 2020. On le voit au discours officiel, les autorités au niveau local le disent, rendez-vous en 2020. Eux, ils se préparent déjà pour 2020. Mais c'est là aussi une question de rapport de force. Si demain, l'opposition infligeait de sérieux coups, que ce soit politique ou du côté militaire, à son régime, ça peut infléchir la cour des choses. Donc, Nkurunziza demain peut se voir obligé d'aller négocier avec des leaders de l'opposition comme Alexis Sindouidje ou le général Niyombare, ou bien même avec le scénario de tout.
Oui, donc, si je vous comprends bien, la solution militaire risque d'être le dernier recours, hein, si jamais la situation n'évolue pas.
Monsieur Eric, je peux te le dire, c'est une information à toute l'audience de votre radio. L'option militaire est le dernier recours, sauf que l'option militaire, les Burundais ne veulent pas de cette guerre. Les Burundais ne veulent pas d'utiliser vraiment de faire de Bujumbura le Mogadiscio. Parce que tout le monde pouvait s'armer et s'entretuer. Aujourd'hui, c'est pour cela que tout le monde donne la chance aux négociations. C'est pourquoi tout le monde veut voir Nkurunziza négocier. Parce que lui aussi n'a pas gagné la guerre. Lui aussi a été mené sur la table de négociation par les volontés politiques des régimes de l'époque. Mais aussi aujourd'hui, c'est ce que les Burundais veulent Nkurunziza. Sinon, aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, l'opposition radicale, l'opposition armée, même s'il n'a pas encore démontré un sérieux rapport de force en leur faveur sur le terrain, mais il est capable de mettre hors d'état de nuire M. Nkurunziza.
Oui, mais cela fait déjà un an que l'opposition armée a menacé de renverser Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une simple publicité, comme le dit Albert Shingiro?
Ah, oui. Ouais. Non. Je l'ai dit, il y a déjà une année, je m'entretenais avec un journaliste américain, je me souviens très bien l'avoir dit, aujourd'hui, faites attention, il y a une nouvelle guerre, une façon de faire la guerre au Burundi. Ça a commencé surtout avec la guerre, ce qu'on a appelé la guerre des cibles. Ça veut dire que c'était des assassinats ciblés pour amener Nkurunziza à négocier. Alors, cette guerre des cibles va finir. Aujourd'hui, si on analyse sur le point du processus, les étapes de ce conflit, aujourd'hui, nous sommes quasi à l'étape où la question de l'est, c'est comment mettre le régime en place au état de nuit avec cette fois-ci une option militaire autre que des assassinats ciblés. Tu vois, les gens commencent à imaginer ça, à penser à ça. Et cela, ça prend du temps. Tu as déjà vu au Burundi, il y a des infiltrations, il y a des rebelles un peu partout. Et puis, ne te dis pas que vous disiez, ah, vraiment, dans la police, il y a quelques camps militaires comme la garde présidentielle et la pire de renseignement. Non, dans tous les camps militaires, il y a des gens où tout est tous des militaires qui sont contre eux, qui n'attendent que le jour J où ils vont en découdre. C'est pour cela que le monde devrait vraiment faire attention avec le Burundi. Tout peut éclater des
moments. Oui, mais Jean-Régis Ndoui, maintenant l'armée nationale burundaise n'a pas encore dit son dernier mot. Elle est restée, du moins pour l'heure, encore loyale à Pierre Nkurunziza. Est-ce que ces mouvements armés-là peuvent renverser Pierre Nkurunziza tant que l'armée nationale demeure encore toujours fidèle à Pierre Nkurunziza?
Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Cela a été démontré lors de l'attaque des camps militaires. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une cassure dans l'armée, mais ça n'a pas marché. Mais croyez-moi, moi j'aime bien discuter avec des militaires à gauche et à droite. Ils sont contre ce troisième mandat, mais ils n'attendent que le jour où cette cassure va permettre peut-être...
Mais cette cassure viendra d'où? D'où viendra-t-elle, cette cassure?
Tu sais, il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder la vase. Par exemple, tu vois, cette histoire de ce qu'on a, les activistes MD, Camus version FDN, donc ces assassinats et arrestations arbitraires des militaires. On ne sait pas tout d'où ça peut amener le mécontentement dans l'armée. Mais aussi donc, il y a une partie de l'armée qui se sent aujourd'hui menacée par le régime en place. On ne peut pas, on ne sait pas, personne ne peut prédire d'où viendra cette cassure. Mais on ne sait pas, par exemple, si tu as vraiment analysé l'attaque des camps militaires, il y avait des militaires qui ont dit oui, nous sommes pour avec les rebelles, mais la répression les a fait vraiment, a été vraiment atroce. Mais croyez-moi, tout le monde le sait, au sein même du système, au cœur du système, il y a des divisions, des mécontentements, mais l'argent et le pouvoir du régime ou de Nkurunziza sur l'armée et ses instruments-là restent la clé de son assise, de sa même mise sous cette armée-là. Mais on ne sait pas que aujourd'hui, tout le monde le sait, dans les camps militaires, on se surveille. Tu ne peux pas faire confiance au métier qui est à côté de toi.
D'accord.
Cette situation.
Ok. Bien, merci hein, Jean-Régis Ndoui. Maintenant, on va suivre l'actualité dans votre pays. Merci d'avoir été en ligne avec nous et à très bientôt sur nos ondes.
À très bientôt.
Il est l'heure de retrouver Philippe Poyen pour l'Afopresse. Rebonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors, et on commence par les événements récents à Beni, c'est dans l'est de la RDC. Beni, où au moins 50 inciviles ont été massacrés par des rebelles, selon les uns, et par l'armée, selon les autres. Et c'était le week-end dernier.
Oui, et la TATS, dit TATS de Berlin, rapporte que le bilan officiel du massacre attribué par l'armée à des rebelles ougandais il y a une semaine à Beni est de 51 morts, vous l'avez dit, des civils tués à la machette, mais des sources locales parlent, elles, de plus du double. À Beni, la plupart des habitants pensent que les assaillants étaient en fait des membres des FARDC, les forces armées de la République du Congo. Les survivants au massacre assurent eux-mêmes que c'était des membres des FARDC qui parlaient en Swahili et en Kinyarwanda, rapporte encore la TATS, qui ajoute qu'un journaliste local de Beni a affirmé même qu'il existait au sein des FARDC un escadron de la mort qui procéderait à de tels massacres. Depuis début 2014, l'armée congolaise mène à partir de Beni l'opération Sukola 1 contre les rebelles ADF, une opération à laquelle participent jusqu'à 25 000 soldats contre 750 rebelles initialement, leur nombre étant passé entre-temps à 300. Or, l'armée ne gagne jamais cette guerre, c'est dans son propre intérêt, rapporte le journal berlinois, qui se base sur des observateurs locaux. Car Beni est l'une des plaques tournantes du commerce illégal d'armes, un trafic lucratif entre l'Est du Congo et l'Afrique de l'Est, par le poste frontière de Kazindi, à la frontière de l'Ouganda, et les militaires engrangent là de belles sommes. En mai dernier, le gouvernement de Kinshasa avait pris la décision de transférer le quartier général de Sokola 1 de Beni vers la petite ville d'Eringeti, à 65 km plus au nord, loin des voies du trafic d'armes. Début août, lors de sa visite à Beni, le président Joseph Kabila avait ordonné de mettre sa décision en application, sur quoi, après son départ, les généraux auraient organisé le massacre pour prouver qu'il était nécessaire de maintenir leur QG à Beni. Lors de l'assassinat du populaire général Mamadou Ndala par une attaque des ADF à Beni au début 2014, on a appris aussi plus tard que les meurtriers avaient agi en fait pour le compte d'un officier rival au sein de l'armée. Si tout cela est vrai, alors le président Kabila a un sérieux problème d'autorité au sein de l'armée, poursuit le journal. Ces derniers jours, il a tenu des réunions de crise avec ses plus importants généraux, mais jusqu'ici, l'opinion publique n'a pas été informée de quelconque résultat.
Le second thème que vous avez retenu ce soir, Philippe Poyan, concerne le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, où l'armée est accusée de violence et de viol à l'encontre de civils, y compris des membres d'organisations internationales d'aide humanitaire.
Oui, les fêtes se sont déroulées début juillet déjà à Juba. Des soldats de la SPLA, l'armée sud-soudanaise, ont brutalement attaqué et violé des civils, y compris des travailleurs humanitaires et des journalistes, tuant même l'un d'entre eux, rapporte la FATS, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Des dizaines de militaires, apparemment des membres de la garde présidentielle, avaient investi le 11 juillet un hôtel abritant des employés d'organisations internationales situé à quelques centaines de mètres seulement d'une base de l'ONU. Ils ont brutalement violé en groupe plusieurs employés étrangères et abattu devant elle le journaliste John Gatluak de la tribune Nour. La MINUS, la mission de l'ONU à Juba, dispose d'une troupe d'intervention rapide devant intervenir lors d'attaques de ce genre. Or, les soldats éthiopiens qui forment cette troupe ont bien été alertés, mais ils ont refusé de quitter leur base. C'est la deuxième fois déjà que l'on reproche au casque bleu de ne pas porter assistance à des personnes en danger. Quelques jours auparavant, les soldats onusiens n'étaient pas intervenus non plus, alors que des soldats sud-soudanais violaient des femmes aux portes même de leur base, s'indigne la FATS.
Merci beaucoup Philippe Poyan pour l'Afropresse et je vous souhaite donc de passer une excellente fin de soirée.
Merci et à bientôt.
Et à bientôt. Et c'est avec l'Afropresse présentée par Philippe Poyan que s'achève Afrique 7 jours. C'était Eric Topona et je vous quitte sur ce proverbe arabe. Ne dis pas tes peines à autrui. L'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui gémit. À la semaine prochaine.
Sous-titrage Société Radio-Canada.